Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse s'est confirmé. La Cour constitutionnelle a approuvé hier les résultats des sénatoriales du 15 février dernier annoncés par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Selon ces résultats, le Parti uni gagne la majorité de sièges, 34 sur les 41, et les 7 restants sont partagés entre les partis de l'opposition et l'indépendant de Buisson de Robert Olympio. Ceci marque une étape très importante dans l'histoire du pays qui connaît pour sa première fois ces élections sénatoriales qui vont certainement déboucher sur la mise en place du Sénat et d'autres institutions de la République. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la presse de ce mardi 25 février 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Bienvenue au Club. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la coordination de l'émission de ce jour. Thomas était aussi de TV assure la mise en onde. Jérôme Dacoutier était la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière, à Nero, Radio La Paix, à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de votre pays ou de notre pays, j'allais dire le Togo et du continent africain et bien sûr également du monde entier. Et ça se fait toujours avec nos confrères journalistes en studio, puisque le nom de l'émission, bien sûr, est évocateur, c'est bien Club de la presse. Et donc, nos confrères journalistes sont en studio avec moi. Confrères journalistes présents déjà en studio avec moi, c'est Eric Pakoudjo-Johnson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
J'espère que vous avez bien passé le week-end et vous avez bien démarré aussi la semaine.
Oui, tout va bien.
Dieu merci, ça merci. Fait plaisir et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Merci également à Adam Adronou, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité, bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio de la nouvelle génération 93.5.
Adam, j'espère que tu vas bien.
Oui, ça va par la grâce de Dieu.
Ça va par la grâce de Dieu.
Ça va.
D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça te fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous attendons d'autres confrères, bien sûr, qui vont rejoindre l'équipe à l'heure de mardi pour que l'équipe soit au complet. Mais déjà, nous avons notre chroniqueur, puisque nous sommes au mardi, notre chroniqueur critique littéraire, également conseiller littéraire, écrivain lui-même. Il est en studio avec moi, Claude Assiobotis. Bonjour.
Bonjour.
Claude, comment vous allez?
Oui, je vais.
Ça va bien?
Comme tous les Togolais, ouais, ça va bien.
Non, mais cette fois-ci, peut-être que le message a changé, parce que d'habitude, c'est à la togolaise, comme vous avez l'habitude.
Ah oui. Bon, tu sais, on est blasé, hein.
Ah bon?
L'homme finit même pas s'habituer à son enfer. Il n'y a pas de problème. La vie continue.
On s'habitue à son enfer. Mais l'essentiel, c'est de faire de son possible pour sortir de cet enfer.
Ah oui, ben. Il n'y a pas de problème. La lutte continue, c'est comme je l'ai dit.
Justement.
Non. C'est pas dans le désordre, mais dans l'ordre.
Tout à fait. Il faudrait quand même que ça soit fait dans l'ordre et non dans le désordre. Alors Claude, nous entamons un autre versant de notre thématique événement historique, redessiné dans les œuvres littéraires, bandes dessinées, théâtre et romans. Nous allons voir à partir alors de la présente émission comment notre histoire nationale, surtout récente, transparaît très visiblement dans la création littéraire, la première œuvre qui nous servira de support, c'est un recueil de nouvelles de l'écrivaine Rita Amenda qui a pour titre « Faits divers et d'espoir » publié aux éditions Graines de Pensée. Claude, vous avez lu avec nous la toute première nouvelle de ce recueil, une nouvelle qui reprend partiellement le titre « Un fait divers ». Claude, en quoi cette nouvelle fait transparaître un des épisodes de l'histoire togolaise sans être une simple transcription ?
Vous me permettez de faire d'abord une mise au point. J'ai été interpellé par certains auteurs, je veux clarifier certaines choses. Et on m'a demandé pourquoi la même thématique, hein? C'est une petite parenthèse. Et je veux signaler à ces gens-là, aux uns aux autres, que on a commencé tout juste par là, hein. Et il y aura d'autres thématiques, hein, qui vont suivre après, hein, corps de femmes, l'argent, l'immigration, etc., etc., hein. Et ensuite, on me dit pourquoi c'est si bref. Ah, c'est bon, l'émission, nous devons le remarquer, c'est 3 émissions x 15 minutes environ en réalité, hein. Ça fait 45 minutes en tout sur le même livre. Je crois que c'est largement suffisant pour éclairer un livre. Et puis bientôt nous allons mettre tout ça en ordre sur un site ou sur les réseaux sociaux, hein. Donc d'ailleurs je signale que notre but ultime, c'est d'aboutir à faire une certaine anthologie des œuvres de la littérature togolaise.
Tout à fait.
Selon notre sensibilité. Hein, voilà. Et voilà. Maintenant, je reviens à votre question. Et dans votre question, je note 2 mots. Transcription et transparition. Transparition, le mot n'existe pas, mais pour les besoins de la cause, je l'invente. Et le comment l'histoire transparaît, hein, sans être transcrite. C'est ça, la question.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Et vous savez, je rappelle que notre thématique, c'est histoire et fiction. C'est historique et fiction. Et je dis que le roman et le théâtre ne transcrivent pas la réalité. Même si ce sont des faits historiques. L'auteur réécrit toujours la réalité. Hein. Roman et histoire, ce sont des réalités vues à travers le tempérament de l'auteur et portées par des personnages créés ou remodelés par lui. Donc, faut pas faire une équation, hein, jamais une équation entre la réalité ou le fait historique et roman ou théâtre. Alors, un fait divers, là j'en viens à la nouvelle même,
la nouvelle.
Un fait divers. C'est une nouvelle qui va au-delà de la simple dimension historique. Hein. C'est une imbrication. Hein. Imbrication, hein, de trois dimensions. Une imbrication dense, je dirais, de 3 dimensions. Une dimension historico-politique. Une dimension sociologique et une dimension psychologique profonde. Hein. Et nous reviendrons dans le thème suivant, corps de femme, hein, sur cette densité et tout ça. Mais si nous nous limitons à la dimension historique, je peux vous dire que c'est l'histoire des premiers tracts sous le régime également. L'histoire des premiers tracts, on est dans les années, moi j'étais élève, hein. Ce qu'on avait appelé les intellectuels égarés. Hein, j'ai oublié. Ceux qui ont mon âge doivent se souvenir. Les intellectuels égarés. Hein, l'auteur même doit être à l'époque très jeune. Hein, puisque moi j'étais élève. Alors, sous le régime, il y a vraiment le Togo. La classe politique au Togo était classée ou divisée en collaborateurs et en comploteurs. Hein? Et dans un style très classique, l'auteur réussit à nous faire revivre fidèlement cette atmosphère politique, de l'époque, faite de folklore et de suspicion. Hein? On pouvait se croire dans tout régime monolithique, mais quelques indices nous disent, nous situent au Togo, nous disent que nous sommes au Togo. À titre d'exemple, seulement, on nous parle de la maison du parti, et on parle des animateurs politiques, et avec des cris comme « Baba Koulé, toujours au pouvoir, toujours au pouvoir, toujours et toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir ». Ça, c'est une des identités togolaises. Hein? Et bon.
Est-ce que ce n'est pas autant de l'animation
bien sûr, ça n'existe plus, mais c'était une, je dirais, c'était une des identités togolaises. Et l'auteur nous restitue cette atmosphère politique, non seulement par ses messes politiques, en nous faisant voir la silhouette et de ce qu'on appelait des comploteurs à l'époque, hein, tous ceux qui bougent, qui veulent contester le régime. Hein, ici, ils ont été arrêtés, humiliés devant une foule, moi je me souviens, c'était une réalité. Hein, et il y avait. Le temps nous fait voir également la silhouette des collaborateurs à travers surtout les forces de sécurité, dont certains général Saraka. Ministre de la Défense, là, qui n'a pas existé. On se souvient qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas des généraux, il y avait un seul général. Hein. Donc, on reviendra sur ce personnage. Après, lorsqu'on va parler des autres dimensions, par exemple, le corps de femme, c'est un personnage qui est loin d'être simpliste, d'être un esprit simple. Hein. Il est dense, sympathique même. On reviendra sur ça. Et ce qu'on remarque surtout chez l'auteur, c'est qu'elle, c'est une femme, Rita Messa Amanda.
Oui.
Elle prend position, hein, ça, tout ça n'est pas neutre. Hein, et elle prend position par son regard d'auteur, surtout par l'ironie. Hein, pas l'ironie, là, l'ironie est très abondante dans l'œuvre. Hein, pour désigner ce Baba Koulé, pour le désigner ce Baba Koulé président, qu'elle présente comme décoré plus qu'un sapin, selon l'auteur. Et elle utilise beaucoup des clichés, des accumulations pour le désigner. Et je vous donne un exemple. Et pour désigner un seul homme, on l'appelle homme providentiel, sauveur vénéré de la mère patrie, et messie du peuple, timonier national, et le père fondateur, etc., etc. Voilà. Et alors, et
il avait donc, pratiquement tout ça.
Voilà, titre. Voilà. Donc, c'était des événements des années 70, je ne me souviens plus, tellement. Et je crois que qui a été ces événements, hein, cette histoire a été récupérée et seulement en 2011. Et vous comprenez pourquoi. Voilà.
D'accord. Alors Claude, c'est vrai, j'ai envie de vous demander aussi, hein, comment peut-on donner à une histoire si grave ce titre, c'est-à-dire un fait divers.
Oui, je crois que le qu'est-ce qu'un fait divers d'abord? Bon, c'est un fait ordinaire mais curieux, hein, comme le disent les, comme le disent le dit un auteur, c'est un chien mort un homme, ce n'est pas un fait divers, mais un homme mort un chien, c'est un fait divers.
Tout à
c'est
fait.
Curieux, ça on dirait, mais c'est curieux. Alors, mais pour un événement si grave, donner ce titre, on peut l'interpréter. La première interprétation que moi je. C'est toujours dans la logique de son ironie, hein. Un fait. C'est un régime. Et qui se croit toujours, qui croit toujours créer des événements, qui en réalité n'est que dans le quotidien, le banal, etc. etc. Voilà.
D'accord. Eric, je ne sais pas si vous avez une réaction. D'accord. Et Isda, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrères du plateau. bonjour aux chroniqueurs et bonjour à toutes et à tous. En fait, cette histoire est tellement décrite. Et même si on parle de faits divers, ce sont des faits réels. Parce que j'ai entendu témoigner Agbe. Seulement, on a oublié de mettre Agbe Ouezon à la FIA pour compléter le slogan.
Notre titre.
Dans les slogans. Non, on a eu à passer par ces étapes. Bon, heureusement que tel n'est plus le cas. L'animation politique et le culte de la personne, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à une nouvelle ère. Même si ça se fait de manière un peu distillée, ça existe toujours. Peut-être le titre de mon journal aussi.
D'accord, on en va compléter. Effectivement. Jean-Baptiste Atisso, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce à Dieu.
D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir.
Voilà, Claude, merci d'être passé alors dans cette émission.
Pour le compléter, c'est pourquoi justement ces choses-là ont drastiquement diminué. C'est pourquoi nous plaçons ça dans la thématique. Histoire.
Tout à fait.
Voilà.
Merci, Claude, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir et de parler surtout de la littérature, mais également avec un aspect spécifique. Et nous revisitons notre histoire, l'histoire telle que écrite par justement ces écrivains et surtout dans les pièces de théâtre et aussi les nouvelles, pourquoi pas les romans. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci d'être toujours constant dans cette émission à travers votre prise de position et aussi votre chronique. Merci. Chers confrères, nous parlons de notre premier sujet. Et le premier sujet, Eric, c'est vous qui nous donnez ce premier sujet par rapport surtout à ce temps-là que nous passons. Je veux bien parler alors du temps de délestage. Vous revenez et vous écrivez sur le sujet et à la une, bien sûr, de votre journal L'Union, maintenance du gazoduc WAPCO, les efforts de la société pour pallier l'arrêt momentané de la fourniture du gaz. Alors, quels sont nous, Togolais que nous sommes, nous avons envie alors de savoir quels sont ces efforts.
Alors, évidemment, nous sommes en temps de délestage encore, et je crois que pour une fois, les Togolais ont été avertis. Et non seulement avertis, mais en plus, on a donné les raisons pour lesquelles nous allons traverser ce temps de délestage. Et il s'agit très bien de la maintenance sur le circuit gazoduc WAPCO de l'Afrique de l'Ouest. En réalité, c'est le Nigeria qui fournit du gaz à quatre pays de la côte, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana et puis la Côte d'Ivoire. Et donc, cette maintenance-là se fait chaque 5 ans. Et donc, il y a 5 ans, cela a été fait et aujourd'hui, ils doivent reprendre. Alors, le Ghana qui nous donne de l'électricité va se voir aussi couper le gaz qui lui permet d'avoir de l'électricité qu'il nous donne en retour. Et donc, comme c'est le cas, il va falloir trouver des moyens quand même pour pallier ce que le Ghana a l'habitude de nous fournir en électricité. Et donc, la CET a pris attache avec le gouvernement pour avoir un financement supplémentaire pour pouvoir trouver une centrale qui va fournir à peu près, il parle de 255 mégawatts hein, pour gérer la situation en attendant que la maintenance la finisse. Et donc, ça a été expliqué hein, que pour que, évidemment, les pipelines soient véritablement bien lavés et tout ça, il faut bloquer hein, le circuit d'approvisionnement au pays de la côte. Et c'est ce qui se fait. Et donc, la CET a touché le gouvernement et a eu quand même une bagatelle somme de presque, disons, 23 milliards, quelque chose comme ça, pour trouver ce palliatif-là, afin que nous ne puissions pas être totalement dans le noir. C'est pour ça que cette société a pris également des dispositions pour que le délestage soit quand même sélectif. Il y a des quartiers qui vont avoir l'électricité le matin, d'autres le soir, et ils appellent ça un plan de rationnement. Et donc, aujourd'hui, ils sont à ce niveau. De l'autre côté, il y a également... vous avez appris la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu une signature de convention avec l'AFD pour la construction d'une centrale photovoltaïque sur le site, l'ancien site de décharge intermédiaire à Gouin. Donc de l'autre côté, après le grand pont d'Agouin. Donc, ils sont en train de mettre en place là, quand même, une structure qui puisse nous permettre d'avoir également de l'électricité. Au-delà de ça, il y a aussi une convention qui a été signée avec une société, et je crois, suédoise, pour avoir le matériel pour emmagasiner cette énergie. Vous savez, par exemple, la centrale de photovoltaïque de Blita, quand il y a le soleil, nous avons l'électricité. Quand il n'y a pas le soleil, c'est fini, parce que nous n'avons pas de mécanisme pour emmagasiner.
Il n'y a pas d'accumulateur?
Non. Ça a été expliqué à plusieurs reprises, je crois, Isidore. Et donc, aujourd'hui, avec cette société, on peut avoir des accumulateurs pour quand même garder cette énergie-là lorsqu'il n'y aura pas assez de soleil pour que nous puissions également avoir de l'électricité.
D'accord. Ok, donc, merci. Oui,
je reste perplexe. Je n'ai pas suivi parce que quand le système photovoltaïque, c'est que vous puissiez capter l'énergie solaire par les prismes et ne pas directement les utiliser. Auquel cas, quand il fait nuit, vous n'aurez pas de courant. Et nous faites comprendre aujourd'hui que la station photovoltaïque de Blita n'a pas d'accumulateur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puisque ce n'est pas un générateur. L'énergie solaire doit avoir un accumulateur pour pouvoir redistribuer l'énergie au moment opportun. Je n'ai jamais eu cette information. On va y voir clair. Sinon, si tel est le cas, c'était du bluff.
D'accord. Mais, Adam, déjà, en écoutant Eric, on comprend que, c'est vrai, la société avait annoncé ce moment de délestage qui doit s'étendre jusqu'au 2 mars. Mais finalement, on aurait cru quand même à un grand désastre, mais avec des efforts, finalement, les choses commencent par rentrer dans l'ordre.
Oui, naturellement, ce qui a salué, vous savez, lorsque la population se sent être préoccupée et la préoccupation de cette population est prise en compte.
Adam, il semble que ton micro, il y a un souci. Nous allons rapidement donner la parole à Jean-Baptiste. Et là, on pourra revenir à toi, bien sûr. Jean-Baptiste, je posais la question tout de suite à Adam, mais au-delà de tout, il y a des efforts qui sont faits hein, par la société. Et on aurait cru d'abord à un désastre total. Mais finalement, avec les efforts, on comprend que les choses reprennent alors du bon chemin.
C'est à nuancer parce que il y a beaucoup de quartiers de la capitale, pour ne pas parler même de l'intérieur du pays, qui continuent de souffrir le martyre des coupures de courant. Et cela, la conséquence directe, c'est le ralentissement des activités économiques. Et donc, si aujourd'hui, tant bien que mal, la CET essaie de colmater les brèches pour que ces coupures n'empiètent pas trop sur les activités des populations, bon, on rend grâce à Dieu. Mais au-delà de ça, la CET ne devrait pas être la seule société à être au front du manque énergétique que notre pays a, puisque le gouvernement a plusieurs fois brandi, tel que le confrère Eric venait de le dire, plusieurs sources d'énergie, à part celles provenant de la CET, mais aujourd'hui, on est devant un fait accompli où le paradis qui nous était promis ne voit pas le jour. Et nombreuses sont ces populations qui aujourd'hui ont des difficultés parce que l'énergie n'est pas au rendez-vous. Sinon, quand on se réfère à ce que nous avait dit au moment de l'inauguration de la centrale de Blita, alors on avait dit c'est plusieurs centaines de milliers de populations qui devraient être tout autour de cette installation bénéficier de l'énergie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la promesse qui a été faite. Contour global, que Kelly et tout ça là qui ont été brandis aux populations togolaises aujourd'hui, ces structures-là ne sont pas au rendez-vous des promesses qu'on avait quand même brandies et que aux populations à leur installation, que le déficit énergétique, les coupures de l'électricité seront derrière nous, mais aujourd'hui, c'est surtout d'actualité.
D'accord. Mais Adam, est-ce que au-delà de tout, nous sommes toujours dépendants.
Il faut nuancer. Parce que quand vous dites que les centrales qui sont là ne répondent pas, je ne sais pas de quoi on parle. Sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces centrales-là qui sont là ne fournissent pas de l'énergie ou quoi?
Fournissent de l'énergie. Est-ce que c'est suffisant?
Comment?
C'est suffisant.
Moi, je pense qu'on avait déjà fait un débat ici et je vous avais dit que ceux qui disaient que la centrale Kekeli ne fonctionnait pas ne disaient pas la vérité. La centrale Kekeli fonctionne à 100%. La centrale Kekeli.
Parce qu'il ne faut
pas tromper les gens. Est-ce que vous avez une fois visité la centrale Kekeli?
Une fois.
Par exemple.
Bien sûr.
Alors, quand tu y es allé, tu as vu quoi?
J'ai dit les promesses qui étaient faites ne sont pas au rendez-vous. C'est ce que j'ai dit.
Évidemment. Je me souviens quand c'était hier.
S'il vous plaît.
On dit qu'on va faire ce débat.
Non, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat. Et donc, oui, Adam, c'est vrai que au-delà de tout, nous sommes toujours dépendants. Alors, en matière énergétique, et là, est-ce que c'est par rapport surtout à notre politique énergétique?
Vous savez, pour mieux apprécier les efforts que font le Togo en matière énergétique, il faudrait sortir du Togo et vivre les moments forts de la crise énergétique. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça à Cotonou, où j'ai vu pratiquement de bout en bout 8 heures à 10 heures de temps sans électricité. Ce que le Togo n'a jamais subi. C'est vrai, je le dis d'habitude. Plus que les autres, mais moins que les autres également, le Togo fait ses efforts en matière énergétique. C'est vrai que nous sommes toujours dépendants au regard de l'extension que le Togo veut faire, veut couvrir pratiquement tout le pays en matière énergétique, parce que il ne suffit pas de dire, voilà, il y a cette agglomération qui devrait être plus servie que d'autres. C'est vrai que la question économique également s'invite dans le débat, mais au-delà de ça, moi je pense que lorsque nous comparons aujourd'hui en matière d'énergie dans la sous-région, de penser que le Togo est en bon point, mais il reste également des efforts à faire. Mais justement, le gouvernement, je pense, ne perd pas de vue cela. Et c'est à cela, pour répondre à l'une de vos préoccupations par le passé, je pense que la population se sent honorée. Lorsqu'on prend ses préoccupations, on a averti, on a mis un plan de rationnement, dire ce qui pourrait éventuellement amener à ce qu'on ait des coupures intempestives d'énergie. Chacun prend des dispositions, mais
combien sommes-nous à tenir compte de ce plan de rationnement, sachant véritablement que, au regard de mes activités économiques, je peux avoir une interruption de courant et que je peux faire autre chose pendant que l'énergie est absente. Donc, quand ça arrive, je pense qu'il y en a qui commencent déjà par, en tout cas, émettre des propos désagréables, mais au même moment, je pense qu'il nous appartient d'être mieux organisés, de prendre en compte ces préoccupations liées à ce plan de rationnement pour éviter des déboires, pour éviter des sales moments.
Mmh. Oui, Isidore ?
Oui, je voulais rebondir d'abord sur le plan de rationnement. Quelle communication est faite autour de ça ? Quel point d'interrogation ? Et autre chose, aujourd'hui, enfin, et à l'époque, Faure Gnassingbé nous disait que avec sa centrale, qu'on appelle-t-on, contrôle global, le délestage est derrière nous. C'est de ça que parle Jean-Baptiste. Mais ce sont des mots ronflants. Et aujourd'hui, on ne voit pas les résultats. Ensuite, lors de l'inauguration de contrôle global, on a dit que c'est à trois et carburant et que le fioul sera expérimenté, mais après on aura les gaz. Est-ce qu'on a une fois utilisé les gaz ou on utilise les gaz? Le gaz qui va réduire de façon significative le coût de production de l'énergie que Contour Global envoie à la société chèrement. Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Et nous dire aujourd'hui que, bon, les gazoducs seront améliorés et autres, là, on ne peut plus fournir du gaz au Ghana ni au Nigeria qui nous renvoient ou qui nous vendent chèrement l'énergie électrique. Pourquoi Contour Global ne fonctionne pas uniquement à base du gaz?
C'est une question que vous vous posez. Alors, c'est parce qu'Eric a la réponse à cette question.
L'ancienne ministre de l'énergie, quand elle a fait sa conférence de presse, lorsqu'il y avait
Moi, je n'y étais pas.
Oui.
S'il y a eu l'opportunité, je vais lui poser cette question.
Isidore, il faut me laisser parler. Tu n'y étais pas, donc dans ce débat, tu ne dois pas parler.
Pourquoi
tout
pas
simplement.
Éric, allez-y, suivez les explications.
Oui, juste parce que vous ne dites pas non.
Mais c'est juste la question. C'est une opportunité pour que je lui fasse comprendre qu'il ne faut pas choisir.
Éric, c'est une personne à qui ça va pouvoir poser. Et vous avez la réponse peut-être à cette question. L'essentiel, c'est de donner la réponse.
Sur la question, qu'est-ce qui a été dit? La ministre avait expliqué que nous étions en ce temps de délestage parce que nous n'avons pas de gaz. Et donc, Les centrales contour global qui doivent utiliser du gaz pour amoindrir les coûts de production utilisent le fioul et par conséquent ça revenait trop cher. Et donc il y a 6 groupes au niveau de contour global. On est obligé d'aller peut-être à un groupe, de faire fonctionner un ou deux groupes pour pouvoir envoyer de l'électricité.
Il n'y aura pas la même productivité.
On laisse Eric terminer. Eric, allez-y.
Je n'ai pas avalé ces choses.
Tu peux pas.
Eric, allez-y, terminez. On donne la parole. Oui, on donne la parole aux autres aussi.
Je ne peux pas parler ainsi.
Non, mais allez-y.
Je suis désolé. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est également la même chose. Lorsqu'il n'y a pas de gaz, Contour Global ne peut pas fonctionner à 100%. Et donc, la solution que la société a trouvée, c'est de trouver d'autres fournisseurs. Il y a un fournisseur avec qui la société a signé un contrat déjà, qui doit nous fournir en moyenne 35 mégawatts pour pallier à ce que le Ghana nous fournissait. De l'autre côté, je viens de parler de la construction d'une centrale de 25 mégawatts et tout ça a été expliqué. Et donc je dis, ce sont des solutions que la société est en train de trouver pour que cela ne pèse pas trop sur la population.
D'accord, oui, et vous n'êtes pas convaincu.
Non, de deux choses l'une. Soit il y a de la magouille qui fait que les centrales qui devaient fonctionner au niveau du compte global ou les groupes à base de gaz ne fonctionnent pas. Sinon, comment l'expliquer? Comment peut-on se l'expliquer? Que les gaz, maintenant, que les Nigériens utilisent et que les Ghanais utilisent, et même la Côte d'Ivoire, c'est eux qui nous vendent de l'énergie. Pourquoi ne pas capitaliser sur ça et mettre et contrôle global hein, en plein régime de fonctionnement à base du gaz? C'est toute ma question.
D'accord.
On est en train de dire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas le gaz.
Non, pas actuellement. Depuis là.
Mais on est en train de parler de la situation actuelle.
Non, nous sommes dans la conjecture. Mais depuis là,
oui.
ça devient structurel. C'est depuis, on n'arrivait pas à fournir de l'énergie électrique à base du gaz. Alors là, c'est un problème structurel.
Mais qui dit ça? Qui dit ça?
D'accord. On va quitter le sujet.
Quand Global n'utilise pas le gaz, qui a dit ça?
Et à plein temps.
Mais on quitte le sujet, on utilise un groupe qui fonctionne en lieu et place de six groupes qui devraient normalement fonctionner.
Alors, tu viens de dire ça dans ton développement.
Tu as dit que la ministre.
On va parler de ce qui se passe.
On va quitter le sujet.
On ne peut pas. S'il vous plaît.
Je pense que la manière dont le débat se déroule, les gens qui sont à la maison ne vont pas nous cerner. Et l'essentiel, c'est que nous faisons le débat pour que des gens qui nous écoutent puissent mieux nous cerner. C'est très important. Alors, on va quitter
actuellement le sujet.
Jean-Baptiste, s'il vous plaît. On quitte le sujet. Jean-Baptiste, on s'intéresse à un autre sujet. Nous allons nous intéresser à la fonction publique, surtout au recrutement, alors au niveau de la fonction publique et avec cette interview hein, que vous a accordé Kampatib Kariware vous écrivez recrutement Kampatib Kariware plaide pour la mise en place du conseil supérieur de la fonction publique. Alors finalement on va se poser la question de savoir et quel sera le rôle alors de ce conseil.
Oui, justement ta question est la bienvenue et c'est le lieu quand même de d'éclairer la lanterne des auditeurs et auditrices parce que au Togo il y a des tests qu'on essaie d'adopter mais ces tests une fois adoptés sont mis dans les tiroirs et c'est le cas précisément de cette structure que nous qui est appelée Conseil supérieur de la fonction publique. Et de quoi s'agit-il concrètement? Alors tout le peuple togolais est témoin des mouvements sociaux qui ont eu lieu, surtout syndicaux, qui ont eu lieu de 2012 à 2013.
Surtout avec la
STP. Oui, surtout les syndicats qui étaient au devant avec la création finalement de la synergie des travailleurs du Togo STT, qu'avait dirigé Mme Nadou Lawson. Et donc, face à la pression des syndicats en janvier 2013, et notamment un dimanche, l'Assemblée nationale était appelée pour adopter le nouveau statut de la fonction publique à l'époque. Donc c'est ce nouveau statut de la fonction publique qui a prévu dans certaines de ses dispositions la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique. Et cette structure qui devrait être composé des membres du ministère de la fonction publique, du ministère de l'économie et des finances, du patronat et des représentants des syndicats et aussi de l'association des usagers du service public. Cette structure qui devrait être ainsi composée et mise en place depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025, si les calculs sont bien justes, ça fait plus de 12 ans que cette structure devrait voir le jour, mais aujourd'hui, force est de constater que cela n'a pas vu le jour, cette structure n'existe pas, et c'est seulement le ministère de la fonction publique qui continue seul à être le seul capitaine à bord et qui procède au recrutement des agents de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État.
Alors qu'est-ce que ce conseil prévoit?
Oui, parce
que
ce conseil
pour la composition.
Oui, oui.
Ça doit être qui
Oui, ça dit que pourquoi cela a été mis en place lors de ce vote. C'est pour éviter justement que les magouilles qui ont cours au niveau du recrutement dans la fonction publique, cela soit surveillé. C'est-à-dire c'est pour mettre un mécanisme qui permet la transparence dans le recrutement dans la fonction publique. Que ça ne soit pas seulement l'apanage du ministère de la fonction publique. Il faudrait qu'il y ait plusieurs acteurs, notamment des agents du même ministère, le ministère de l'économie, du patronat, le secteur privé aussi, et les représentants des syndicats et l'association des usagers du service public puissent être représentés au sein de cette structure pour que les recrutements pour le compte de la fonction publique ou pour le compte de l'administration publique soient un recrutement qui se fait dans toute transparence pour que plusieurs yeux voient clairement dans le processus de recrutement dans la fonction publique. Donc c'est pour pallier à ce manque de transparence que justement cette structure avait été mise introduite notamment dans cette loi que nous appelons le statut de la fonction publique depuis 2013. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas et aujourd'hui tout le monde est témoin quand on veut recruter des gens maintenant pour la fonction publique. On veut recruter par exemple 1000 personnes, vous allez voir de gauche à droite que c'est tel ministre ou bien c'est tel général qui va envoyer 10 noms, tel va envoyer 5 noms et ainsi de suite. Les 1000 personnes là sont recrutées sans qu'on ne voit pas réellement de transparence. Il y a des gens qui pendant 10 ans, 15 ans ont toujours postulé à des concours mais franchement eux-mêmes ils s'en sortent toujours déçus de ce que... qu'il n'y ait vraiment pas de transparence autour des recrutements dans la fonction publique. Donc, c'est ce à quoi plaide cette structure dont le président a été interviewé au sein de notre rédaction que nous avons publiée.
D'accord, merci. Isda?
Non, moi, je ne suis pas convaincu de la pertinence de la mise en place de telle structure. Je ne suis pas convaincu.
Le conseil supérieur de la fonction publique.
Est-ce que ça viendra comment? Et organe consultatif ou conseil d'administration?
Non, pas du tout.
Permets, allez-y.
Permets que je continue. Et tous ceux qui vont le composer là, ils se laissent de leur dire que bon, envoyez-moi tel nom, on intègre. Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas fondamentalement le problème. Donc, tous les agrégats que vous avez cités qui vont composer ce conseil là, n'arrive pas à me convaincre, même de par le fonctionnement. Donc, ce serait une structure de plus.
D'accord. Oui, Adam, est-ce que vous pensez aussi que ce serait une structure de plus?
Oui, moi, je pense que la pertinence même de la proposition cause problème, pour la simple et bonne raison que je pense que lorsque on n'est pas au cœur d'un recrutement, on a toujours tendance à croire que les autres font mal et qu'il y a du copinage, puisque c'est ce qu'a relevé Jean-Baptiste tout à l'heure. Or, en réalité, lorsqu'on proclame les concours, quoi qu'il en soit, de toute évidence, on peut véritablement peut-être voir que quelqu'un a été peut-être, en tout cas, racheté d'une manière ou d'une autre. Mais cet organe qui viendra fera aussi la même chose. Voilà. Mais il y a des gens également qui vous diront qu'ils ont passé le concours. Et je pense que ce n'est pas Isidore qui va me démentir. Ils ont passé le concours sans voir quelqu'un, mais qui ont réussi. Il y en a plein. Donc, moi, je pense que c'est un organe de plus, comme Isidore l'a dit. Il faudrait véritablement... Bon, moi, lorsqu'on lance les concours, qu'on le proclame, ce qui m'intéresse, c'est que on sait que ce sont des Togolais qui sont recrutés. Maintenant, ce qui est important, c'est l'amélioration des conditions qui causent actuellement problème et faire en sorte que nous soyons au même niveau, le quota de pourcentage qu'il faudrait dans un pays. Il faudrait que ce pourcentage-là atteigne. De toutes les fils d'évidence, on met en place, quels que soient les conseils qu'on mettra en place, on va toujours dire la même chose et c'est toujours le recommencement. D'accord. Mais l'essentiel, c'est que ce sont les Togolais qui sont recrutés.
Alors, pour l'inclusion, Eric, pour l'inclusion alors de chaque acteur du secteur, est-ce que finalement, on n'a pas besoin vraiment d'une telle structure?
Vous savez,
je pense qu'une structure, quand on va vous expliquer, je pense que Jean-Baptiste n'a pas eu le temps de nous expliquer, de nous donner les prérogatives de ce conseil-là. Et c'est pour ça, on a tendance à croire que c'est peut-être un conseil de trop.
Pas du tout.
Je pense qu'il faut toujours mettre des garde-fous lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique. Et le plus souvent, on dit que c'est lorsqu'il y a de ces structures civiles que, enfin, quand je dis civile, c'est dans le
multi-acteur. Voilà.
Et donc, ça permet de mieux gérer les choses. Je crois que dans le recrutement, le plus souvent, il y a toujours des frustrations. Des gens qui disent, bon, nous tous, on a fait ceci, on a fait cela, mais après, voilà, c'est tel nom, telle famille, tel ceci qui est sorti, et nous, non. Ça crée des frustrations. Et lorsqu'il y aura ce conseil-là, je pense que chacun saura pourquoi il n'a pas été recruté. Ça va permettre d'élucider beaucoup de zones d'ombre dans les recrutements dans la fonction publique. Pour moi, ce n'est pas un conseil de trop, mais c'est un conseil qui va quand même apporter quand même un plus à la manière de recruter. Et quand on parle de recrutement, ce n'est pas seulement au cours des concours. Il y a d'autres recrutements qui se font également sur appel à candidature ou d'autres choses. Vous savez, à la tête de certaines institutions, on fait des appels à candidature et des gens, quand ils arrivent, ils ne partent même plus. Ce conseil-là peut permettre aussi de relever ces manquements-là. Les gens qui viennent pour faire 5 ans, ils sont là depuis 20 ans. Et on peut, avec ce conseil-là, on peut avoir une manière de mieux gérer ces institutions qui font des appels à candidature.
Je vais juste ajouter
Oui, rapidement.
Moi, je crois que ce qui serait souhaitable, peut-être cela existe, moi, je pense que faire des propositions qu'on puisse peut-être ajouter, sinon nous prenons dans la globalité peut-être la géopolitique, au-delà des compétences, puisque lorsque nous parlons de la fonction publique, je pense que voilà des propositions qui peuvent véritablement aider. Peut-être ça existe, peut-être ça n'est pas mis, en tout cas, à portée de tout le monde, mais ça pourrait permettre de pouvoir, en tout cas, ajuster certains mécanismes pour éviter certaines frustrations ou éviter à ce que certains aient plus que d'autres. Mais bon, les conseils comme tels, bon, de toute évidence, c'est vrai. Si nous prenons le cas de l'ENA récemment dans son fonctionnement, qui avait dit clairement que les tests le disent, et entre-temps que voilà, c'est le concours de recrutement de l'ENA est organisé par l'ENA. Or, entre-temps, c'est le ministère de la fonction publique qui s'en occupait. Ce qu'a fait Adama Kouta, c'est d'ajouter d'autres acteurs pour l'anonymat. Et quand les résultats sortent, voilà ce qui sort. C'est pas seulement les fonctionnaires de l'ENA ou bien lui qui s'assoit et puis fait. Il a ajouté d'autres acteurs et l'anonymat. Et quand les résultats sortent, voilà, sont ceux qui sortent qu'on prend. Donc peut-être ce genre de propositions peuvent aider. Sinon, en termes d'avoir des questions, eux aussi feront des propositions.
D'accord. Mais oui, Jean-Baptiste, au-delà de tout, il y a une équipe quand même technique qui s'occupe alors des recrutements au niveau de la fonction publique et du ministère de la fonction publique.
Oui, mais vous voyez que aujourd'hui, tous les syndicats qui avaient manifesté à l'époque en 2013 jusqu'à ce que cette structure ne soit mise en place, n'étaient pas des idiots en plaidant pour ça. Et donc, aujourd'hui que leurs voix ont été entendues par les députés de l'époque et cela a été inséré dans le statut, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever et dire que c'est une structure de trop. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, c'est seulement le ministère de la fonction publique qui est, même s'il y a une équipe technique, c'est la seule structure qui s'occupe aujourd'hui du recrutement dans l'administration publique. Pour tous les autres services. Alors qu'aujourd'hui, on l'a dit, il y a toujours des frustrations. Et c'est pour cela que la loi a dit que ça ne soit plus seul le ministère de la fonction publique qu'on mette en place une structure composée de plusieurs acteurs et même y compris les syndicats pour qu'on ait une vue plus globale, plus
plus de transparence dans, dans le mécanisme de recrutement. Et on peut pas se lever et dire que ce serait une structure de trop, puisque c'est les syndicats qui défendent les intérêts des travailleurs, des fonctionnaires.
D'accord. Allez, on va quitter le sujet. On s'intéresse à la politique. La politique, je l'annonçais déjà dans mes mots introductifs, justement à l'entame alors de cette émission, les résultats définitifs des sénatoriales ont été proclamés hier par la Cour constitutionnelle, et ce que nous avons compris, c'est que c'est-à-dire la Cour constitutionnelle a approuvé les résultats provisoires de la CENI. Il y a le journal, le médium qui est revenu sur le sujet, le journal qui écrit « Politique sénatoriale 2025, résultat définitif, la messe est dite ». Avançons. Et c'est ce que le journal écrit. Et parlant de la politique, c'est vrai que Isidore, vous êtes aussi revenu sur la politique, hein, bien sûr, et vous écrivez « L'état de non-droit perdu au Togo, Fognassimbe exporte-t-il son système de droit usurpé en Afrique ?» C'est une question que vous vous posez.
Oui, c'est un communiqué du réseau des Togolais de la diaspora, c'est qu'on appelle-t-on pour la vérité des unes et autres, qui est parvenu à notre rédaction. Il est arrivé à ce constat que depuis le décès du Silval Solupio le 13 janvier 1963, c'est l'état de non-droit qui a prévalu jusqu'à nos jours. Et qu'il qualifie cette situation de blocage. Et s'est pas arrêté à là, à faire une proposition de sortie de crise. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'est pourquoi nous avons relayer cette information. Et parce que ça peut servir au peuple togolais et même aux gouvernants de se regarder dans le miroir pour voir si ce que les gens disent n'est pas vrai. Vous voyez, en principe, si nous n'étions pas dans cette lutte de la 5e République, on doit commencer déjà par préparer l'élection présidentielle, hein, puisque ce fut le 22 février 2020 qu'on avait organisé l'élection présidentielle.
La dernière
élection présidentielle où Fognassimbe a brigué un quatrième mandat. Donc c'est la confiscation des libertés. C'est la confiscation de l'état du droit. Et tout porte à croire que si tu es dans les sérails, tu es protégé. Tout porte à croire. Donc vivement qu'on puisse sortir de cet état de non-droit pour que l'état des droits puisse prévaloir au Togo.
D'accord. Adam, nous allons parler des résultats, hein, des résultats définitifs des sénatoriales proclamés hier par la Cour constitutionnelle. Alors, quand on suit ces résultats proclamés, finalement, on pourra dire que c'était sans surprise, là.
Oui, bon, de toutes les façons, c'est que la Cour constitutionnelle a validé les résultats proclamés par la CENI, et c'est une étape très très importante pour la mise en place des institutions de la 5e République. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'étapes également franchies, notamment la nomination des 20 sénateurs récents et la session inaugurale qui est attendue. Mais je dis que c'est une belle expérience parce que vous savez, entre temps, c'était pratiquement une sorte de saut dans l'inconnu. Les Togolais ne savaient pas de quoi il est question. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que les élections sénatoriales, même si ce n'était pas la préoccupation de la quasi-majorité des Togolais, puisque pour certains, ils sont habitués à des campagnes de grande envergure, ça n'a pas été le cas. On a parlé des grands électeurs pour la première fois, nous sommes arrivés là. Mais justement, je pense que le périple continue, le périple, en tout cas, de la découverte, quelque part. Donc, comme je l'ai dit, après cette nomination des 20 sénateurs, on attend de voir quelle sera donc la session inaugurale et quelle sera donc la structuration du Sénat. On dit Sénat. Est-ce qu'ils auront un bureau comme le voyons au niveau de l'Assemblée nationale? Nous savons qu'il y aura un président du Sénat. Ça, bien évidemment, il y aura ça. Mais quelle sera
cette structuration, quelle sera aussi, en tout cas, la bacatère de l'opulence que va vivre ces sénateurs. Donc tout ceci reste donc des découvertes que les Togolais attendent de pied ferme.
D'accord. Eric, est-ce que vous avez aussi la même impression que le journal, le médium, quand le journal écrit que la messe est dite et que nous devons avancer?
Avancer en quel sens? Vous savez, selon la constitution du 6 mai, la première session du Sénat se tient dans la première semaine du mois de mars. Et donc, ce qu'il faut attendre maintenant, c'est que le chef de l'État doit nommer très rapidement les 20 sénateurs pour qu'on ait les 61 sénateurs. Et comme nous sommes à le 25 février, et donc, disons, dans une semaine au plus tard, ces 20 sénateurs-là doivent être nommés et le Sénat sera au complet pour siéger. Si tout va bien, selon mes calculs, quand je regarde un peu, peut-être le 6 mars. Hein. Et donc, ce qu'il faut attendre de ça, je pense que c'est l'élection du président de la République. Ça, c'est la première étape très importante dans l'installation de la 5e République.
Ça dit des institutions.
Le Sénat sera installé d'ici deux semaines au plus tard et il faut élire le président de la République. Après, il faut passer à l'étape suivante qui sera le président du Conseil des ministres et il faut que tout cela se fasse avant le mois de mai. Je crois que c'est le processus. Avançons. Comme l'a dit
le journal, le médium,
ce n'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'il y a encore des contestations. Et vous savez, comme on le dit, les accords politiques priment sur les lois. Et il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce que les politiciens nous réservent encore? On n'en sait rien. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'avancer, mais le constat est fait qu'il y a déjà les 41 sénateurs qui sont là, 20 seront nommés, on va passer à l'élection du président de la République, ainsi de suite.
D'accord, oui, mais Jean-Baptiste, est-ce qu'avec ces élections qui viennent d'être passées, et finalement, est-ce qu'on est en train de voir clair dans ce que c'est que cette 5e République?
Bon. Qu'est-ce qu'on voit clair dans ça? Bon, ça dépend de ceux qui pensent que tout est clair et il faut avancer. Mais moi, je ne sais pas trop si en avançant, est-ce qu'il n'y aura pas d'obstacles. C'est ma préoccupation. Parce que si nous voulons construire une démocratie, on construit la démocratie avec les principes démocratiques. On ne construit pas une démocratie avec les méthodes de voyous. C'est pas du tout. Ce qui est en train
Mais qu'est-ce que vous appelez par méthode de voyous, Jean-Baptiste?
Vous savez, si par exemple, une constitution que tout un pays ou toute une nation s'est donnée et un groupe d'individus se lève pour piétiner cette constitution...
C'est des députés.
Ils sont... Combien par rapport à la population? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Est-ce que des députés du peuple
hein? Il faut nuancer cela. Il faut bien nuancer cela. Donc, c'est pourquoi je parle de voyous. Parce qu'on ne peut pas quand même dire qu'il y a une constitution qui dit clairement que pour changer, il faut passer par ce peuple-là. Mais quand on voit le peuple est là, on le piétine et on met en place une constitution. Je crois que c'est une méthode de voyous. Si... Tel est le cas. On dit d'avancer, nous allons avancer, mais jusqu'où irons-nous? La question mérite d'être posée. Jusqu'où on va aller? Et aujourd'hui, quand vous voyez bien la forme hein, par laquelle on nous dit d'aller à une 5e République, et même on va au-delà de la forme et on va au fond de cette
constitution dite du 6 mai, vous voyez que aujourd'hui le Togo n'est plus une république, mais est transformé de façon voilée en un royaume.
D'accord, c'est votre avis. Oui, Isidore?
Non, en fait, j'ai suivi avec intérêt le développement d'Eric. Oui, si nous prenons compte, nous tenons compte plutôt de la disposition de la 5e République, c'est de ce qui doit se faire. Au plus tard, le 6 mars, la première session devait avoir lieu, du Sénat devait avoir lieu. Mais alors, qui nomme les 20 sénateurs? C'est le président du Conseil des ministres. Si vous voulez suivre à la lettre les dispositions, ça doit être le cas. Fonia Simbé n'a plus la qualité de nommer les 20 sénateurs. Puisqu'il n'est pas, il n'a pas encore le toge du président du Conseil des ministres. Voilà autant d'incongruités qui me donnent du tournis à parler de cette 5e République.
D'accord.
Voilà. Où allons-nous? Droit dans le mur. Droit dans le mur. Demandez aux professeurs d'université, les professeurs de... Mais eh bien, ils sont dans la brouillamini. Ils n'ont plus savoir quelle matière enseigner aux étudiants. Mais écoutez, quel régime parlementaire qui met à sa tête quelqu'un qui n'est pas un élu?
C'est un monstre.
On me dira l'Inde, comme d'habitude. On me dira l'Inde.
L'Inde,
non, mais on n'a jamais cité l'Inde dans nos corpus juridiques. Mais faisons les choses bien. Si d'accord. Nous voulons aller.
D'accord.
Moi, je n'ai rien contre le régime, mais de grâce.
Merci beaucoup.
Ne prennent pas pour des imbéciles ou des ignorants.
Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission. Et je sais qu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Et ils peuvent aussi nous écrire, c'est-à-dire réagir sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous reprenons l'antenne et nous sommes de retour. Vous avez sans doute compris que maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagissez sur des sujets débattus ici avec mes confrères, bien sûr, en studio avec moi. Isidore Akolo, Jean-Baptiste Atisso, Eric Pakoudjo-Johnson, Adam Adronou. Ils sont quatre autour de la table, bien sûr, ici avec moi. Et vous pouvez aussi réagir sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est sur ce numéro que vous pouvez facilement nous écrire pour intervenir également dans cette émission Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour Pascal.
C'est Patrick.
C'est Patrick en ligne.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Bon, à sa grâce, ça peut aller.
Dieu merci, allez-y.
Pardon, avant de revenir dans le vif du sujet du jour, j'aimerais quand même vous faire cette mise au point concernant l'émission d'hier. Quand, bon, j'ai toujours l'habitude de dire que cette émission est une émission, est un rendez-vous du donner, du recevoir. On apprend de vous, vous aussi vous apprenez de nous.
Tout à fait.
Maintenant, quand nous, on donne notre version, on n'a plus la possibilité de répondre. Peut-être qu'un confrère voulait quand même renchérir sur les propos d'un auditeur. Il voulait quand même corriger quelque chose, mais nous, on a déjà raccroché. C'est ce qui s'est passé hier. J'ai dit, concernant le cinéma, j'ai dit quelque chose que M. Didier Assogba, peut-être, je ne peux pas dire qu'il a mal compris, mais si c'est que j'étais à l'île, il me posait la question. J'allais lui répondre que le leadership existe dans le monde du cinéma. Ce n'est pas Elon Musk et Trump ce n'est pas Assimi Goïta et les Wagner. Je veux dire, ce n'est pas le mariage là qu'on peut penser qui existe dans le monde cinéma, mais il y a des problèmes. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette mise pas avant de revenir dans l'émission.
D'accord, d'accord, allez-y rapidement.
Alors, pour l'émission concernant la souhaitée, bon, ça ne serait pas bon que l'État fasse une politique concernant les panneaux solaires en collaboration avec la souhaitée pour que au moins tout le monde puisse avoir des panneaux solaires. Parce que avec la coupure, est-ce que l'année là c'est ça? L'année suivante, peut-être qu'il y aura autre problème, et ça là, jusqu'à quand? Alors que si vraiment nous avons de bonnes batteries avec les panneaux solaires, au moins pour pallier à ces genres de coupures là, ça peut faire l'affaire. Si l'État, si même je pense que ça peut quand même résoudre un temps sous peu les problèmes de coupure d'électricité là. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick. Merci pour votre intervention au Club de la Presse, 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Bonjour, Pascal. Bonjour à tes invités, journalistes en Inde. Narendra Modi est réélu député à Varanasi. Cela n'a rien à voir avec le système parlementaire togolais. C'est seul au Togo où un non élu a tous les pouvoirs pour régner à vie. Merci, c'est Maghribé qui nous écoute depuis la Belgique. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Décidément, je ne sais pas s'il n'a pas de retour. Notre ami qui est en ligne, 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse, bien sûr, à l'heure de ce mardi. Bonjour Pascal et bonjour le plateau. Merci pour la diversité et liberté des débats. Je voudrais remercier Eric pour la qualité et le pragmatisme à l'heure des interventions. Courage à vous tous et bonne journée, c'est Cyril qui nous écoute depuis le Canada. Allô? Allô, bonjour.
Allô? Allô?
Oui, bonjour.
Oui, c'est Togbi Djomati.
Togbi, pardon?
Togbi Djomati.
Togbi Djomati.
Oui.
D'accord, allez-y. Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Zangera.
D'accord, allez-y.
Mais il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre. Actuellement, c'est le président de la République qui doit... Non, pardon, le président du Conseil des ministres qui doit nommer les autres. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de président du Conseil des ministres. Comment ça va se passer? Quelle est ma question?
D'accord, ok. Merci beaucoup, Togbi Djomati, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui est disponible. 90 45 78 57. C'est bien sûr sur ce numéro. Vous pouvez réagir et également et nous écrire. 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, pas la grâce?
Pas la grâce, hein, comme vous venez de dire, c'est Senghor.
Hein. Oui, c'est Évangéliste Senghor. Allez-y.
Non. Que ce soit 5e, 6e, 7e, 10e République, il n'y a pas de problème. Je le dis, je le réitère, que le chef, le premier responsable du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Vous voyez, moi je le dis souvent, nous sommes là pour un petit temps. Hein? Où aujourd'hui c'est Dieu qui l'a appelé. Il fait de son mieux, mais il doit faire plus que ça. Pour que vraiment la population togolaise, la gestion de son père est déjà passée. Il est arrivé. Il faut que les Togolais mangent à leur faim. Vous savez, monsieur le journaliste, quand on met un cercueil dans la tombe là, le dernier mot que tes yeux t'accompagnent. Il ne s'agit pas que les gens sont là et ils prennent le Togo comme leur propriété privée ou aujourd'hui vous allez voir les gens amasser de l'argent. Vous savez, l'amour, si le président est sous ses oreilles, la première des choses, ce qui va être sa priorité, c'est que sa population mange à leur paix. Sa population peut profiter des ressources du pays. Il n'est pas bon que les gens mangent et les autres sont au fait.
Alors nous sommes, il est déjà 11h midi ou quelque là. Il y a des gens, même il y a une famille qui peut-être même pas manger, ils n'en trouvent pas. Non. Vous savez, tout ce que nous faisons comme des actes sur la tête des hommes, il y a un retour. Donc je interpelle le président. Qu'il est temps qu'il change sa mentalité en tant que président.
D'accord. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. Bonjour, Canal FM. Quel avenir pour notre pays si les intellectuels et les professeurs en droit et d'autres universités perdent leur conscience et leur dignité à cause de la politique? C'est Kofi de Zangera qui pose bien sûr la question. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Vous savez pourquoi nous traînons comme ça? C'est que l'argent qui est le catalyseur dans d'autres pays, il l'a fait en bien. Mais dans mon pays, comme le dit souvent, les gens vont à la mangeoire. Donc, l'argent a détourné l'esprit. Même au moment des campagnes, on donne du riz et les gens se réjouissent. Et il ne sait pas, il va manger ça jusqu'à quand. Jusqu'à là, il n'y a pas d'essence dans les stations d'essence. Hein. J'ai acheté bourré, 3 litres, 750. Vous voyez? Et on dit qu'on va dans la 5e République. Les pays dans lesquels il y a la sagesse, Mandela par exemple, ce pays-là évolue. Hein. Et dans d'autres pays, là où il y a la sagesse. Dans mon pays, c'est l'argent qu'on met devant. On trompe les gens, on fait du bien. Mais je vous lance le défi, entre l'argent, bien, je vous pose le choisir, entre l'argent et la sagesse, qui développe mieux le pays. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez facilement nous appeler et intervenir en direct dans l'émission Club de la Presse. Bonjour. La question est, est-ce que le même et typique système de gouvernance qu'on voit ailleurs? C'est Monsieur Roro qui nous posait la question. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et nous écrire. Également sur notre numéro WhatsApp. Allô? Allô, bonjour. Allô, il est parti. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est...
Bernard.
Bernard, vous nous appelez de quel quartier?
Oui, j'appelle de GTA.
GTA, allez-y Bernard.
C'est pour dire merci à la société pour son travail. Mais je suis très intégré dans ce pays, le Togo. La régie est là pour quoi dans ce pays? Vous allez à Ditikopé, dans la rue, tout ça, il n'y a pas l'eau. Les gens font des branchements, on a payé de l'argent, mais rien ne sort dans les tuyaux. Je suis révolté, que je suis togolais. Je demande que le chef de l'État puisse mettre le ministre, le directeur de la TDE et tout son staff, renommer des gens pour que l'argent de ce pays, on puisse le prendre pour de l'eau aux Togolais. C'est pas normal. On doit vivre, c'est l'eau qui fait la vie. Mais les gens payent de l'argent, mais l'eau ne sort pas dans le robinet. De Tkopé, il y a un petit château là-bas. Mais les gens payent, mais rien ne sort. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse dans ce pays? Mais ce que la société fait, si la vie faisait comme ça, on serait mieux. Mais je demande que le chef de l'État Brumas voit cet appel, c'est très important. Il est là, c'est pour sauver les Togolais. On ne dit pas qu'on est Togolais, puis nous allons souffrir comme ça. Ça, c'est pas normal. Franchement, je suis désolé de parler de ce temps.
D'accord.
C'est mon inquiétude.
D'accord. Merci beaucoup, M. Bernard, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM, concernant le recrutement des fonctionnaires au Togo. Si un n'a pas un frère ou une connaissance au gouvernement ou un grand cadre, tu fréquentes pour rien. Et tu peux avoir toutes les compétences et tous les diplômes, mais à la fin, tu deviens un Z-man. C'est Amidou qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse, bien sûr, de ce mardi. Bonjour les amis, vous savez, le Togo s'effondre, les gens n'ont pas la dignité, ni le moral, ni la honte. Où va le Togo? C'est bonne émission, c'est Monsieur Nyamaku. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Allez-y.
Bon, je pense que le régime RPT unir persiste ses signes qu'il n'y aura pas de regroupement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de meeting pour l'opposition. Bon, on a compris ça. Peut-être que certains diront que le peuple est fatigué. Non, je pense qu'aujourd'hui, le peuple a un seul porte-parole qui est M. Ferdinand Hippé, qui fait un grand meeting tous les dimanches à 14h. Tous les dimanches à 14h, plus de 5-6 millions de Togolais sont tous au meeting. Je pense que c'est une opportunité. On parle des meetings, des regroupements qu'on ne doit plus aller. Tout ce que des gens pensent à dire à ce régime, je pense que M. Ferdinand Hippé nous fait ce travail-là déjà. Donc, je voudrais passer sur votre antenne pour saluer M. Ferdinand Hippé pour son courage et sa détermination. Merci.
Merci, Pélé, pour votre intervention. Souvent, on nous dit que c'est M. Fognasinghe qui va nommer les 20 sénateurs restants pour avoir les 61 sénateurs. Ma question est celle-ci. Actuellement, M. Faure est président de la République ou bien il est président du Conseil des ministres? C'est une question de Kodzovi. Depuis que Bala, il dit merci et bonne émission 90, 86, 35, 35 et 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Allô, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, M. directeur, M. Pascal Akolor. Moi, j'ai toujours un seul message. Celui qui dit qu'il n'y a pas de sages au Togo, il y en a. Nous faisons partie des sages. Deuxièmement, que les gens là, excusez-moi le terme figuratif, le gouvernement, l'opposition, passe tout pour que le peuple soit heureux, qu'il y ait la paix. Ceci parle de la salle. Mais vous avez écouté, tous les jours nous écoutons ce que les interventions des gens. Est-ce que ça ne suffit pas pour que les gens, le gouvernement, le peuple prennent conscience? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Papa Sibiti, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis cette réaction rapidement avant de faire le tour de table final. Bonjour, cher journaliste. Isidore a dit quelque chose de très, très pertinent. C'est le président Faure Gnassingbé qui doit nommer les 20 sénateurs ou c'est le président du conseil Faure qui doit les nommer. Et c'est Guy, depuis Adéti Kopé, qui posait vraiment cette question. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce mardi. Adam Adronou, vous avez écouté les uns et les autres alors se prononcer sur l'actualité. Votre réaction?
Bien évidemment, vous savez, sur tous les sujets, il n'y a pas eu tellement d'interpellations. À part quelques questions, je pense que certains l'ont abordé. Mais ce qui est important, c'est que je pense que nous devons nous armer au regard de la communication que fait le gouvernement sur la question énergétique qui est une préoccupation nationale, puisque tout le monde fait usage de ce denrée-là pour ses activités. Mais au-delà de tout également, si il advenait que cela pourrait changer, je pense que cette pédagogie-là nous a été bénéfique d'une manière ou d'une autre, que cela puisse continuer ainsi pour qu'on ne puisse pas être surpris des coupures intempestives.
D'accord. Eric?
Oui, évidemment, le sujet, les deux sujets évoqués, à savoir le courant électrique et puis la 5e République, ces deux sujets-là ont intéressé nos compatriotes. Et je voudrais rajouter quand même que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'il y a eu des incompréhensions sur le fonctionnement des centrales. Il est dit clairement que lorsqu'il y a du gaz, les centrales fonctionnent en plein temps. Mais lorsqu'il n'y en a pas, il faut alors chercher d'autres sources d'énergie. Ils ont parlé du fuel, et il y a le LFO, FLO, je ne sais pas. Enfin, c'est des trucs techniques, mais c'est des sources d'énergie qu'il faut aller chercher pour faire fonctionner les centrales. Et donc, le gaz est le seul combustible qui permet de fonctionner, mais à des frais réduits. Mais lorsqu'il n'y en a pas, il faut alors faire d'autres efforts supplémentaires pour aller chercher. Et ça coûte excessivement cher pour la CET, puisque dans le contrat de contour global, c'est la CET qui doit acheter le combustible pour faire tourner la centrale. De l'autre côté, je parlais tantôt de la centrale et photovoltaïque. Évidemment, lorsqu'il y a le soleil, nous avons ces centrales photovoltaïques qui fonctionnent en plein temps et ça nous fournit la capacité requise. Mais lorsqu'il n'y a pas de soleil, nous sommes en période de pluie. Par exemple, il y a un moment où on n'aura pas d'électricité à partir de ces centrales parce qu'il n'y a pas d'accumulateur pour faire chose, pour capter cette énergie. Et donc, la CET vient de signer un contrat avec une société pour nous fournir ces accumulateurs-là afin D'accord. que, même en temps de mois de soleil, on puisse avoir de l'énergie.
D'accord, merci beaucoup, Eric. Jean-Baptiste
Oui, bon, je crois que beaucoup d'auditeurs... je crois deux ou trois sont revenus, M. Diomati, Kodjovi et autres, sont revenus sur qui va nommer les sénateurs restants. Je crois que c'est une question pertinente et que beaucoup de Togolais se posent d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on nous dit qu'on est entré dans une cinquième république depuis le 6 mai 2024, cela veut dire que nous devons avoir le président du conseil. Et c'est lui qui devrait nommer les sénateurs restants. Mais aujourd'hui, bon, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas qui est le président du conseil.
Et il ne faut pas oublier que nous sommes en transition aussi.
Et nous sommes en transition. Est-ce que tu connais...
Non, on ne va pas faire le débat.
Est-ce que tu connais un pays dans lequel il y a en même temps une république qui est là et une nouvelle république et les deux républiques vont fonctionner au même moment? On nous dit qu'en on est en période de transition. Il y a la transition sous une autre république et on est dans une nouvelle république avec d'autres structures. Vous avez vu un pays au d'accord, monde où
merci,
il y a deux.
Merci beaucoup,
ce n'est pas normal.
Ok, merci. Hein?
C'est,
d'accord, merci. Isidore.
Non, moi je peux revenir sur ces argurcis que nous essayons de faire avaler à la population. Bon, c'est eux qui décident, ils n'ont qu'à décider. Pour moi, ça mange chaud. On ira dans cette 5e République. Et parlant du système, je peux me tromper, hein, mais il y a les techniciens qui sont là. Quand on parle de l'énergie solaire, il y a le prisme et il y a l'accumulateur. Ça ne fonctionne pas sur la base de générateur. C'est sur la base d'accumulateur. Même s'il pleut, les prises peuvent capter l'énergie solaire.
D'accord. Je pense que le débat a été fait.
Je voulais interpeller le président de la République sur le dernier rapport 2023 de l'inspection générale d'État qui a lancé un OSS avec les difficultés qui font que cette institution n'arrive pas à bien faire son travail.
D'accord.
Les difficultés sont énumérées. Malheureusement, on n'a pas eu
le temps. On n'a pas le temps, justement.
Et on voulait interpeller le président de la République.
D'accord.
Puisque l'IGE
dépend directement
de la présidence. Merci beaucoup Isida Kolo, directeur de publication du journal Actu Express. Merci Adam Andronou, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci Eric Pakoudjo-Johnson, directeur de publication du journal L'Union. Merci à Jean-Baptiste Atisso, directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site d'information corpsdiplomatique.news.tg. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour votre intervention dans ce débat. Et c'est une contribution très appréciable quand même que nous avons. Et vous avez si bien constaté que ça a été une contribution diversifiée des uns et des autres. Merci à Thomas et Ted ATV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Canal FM.